Alors moi, j'ai déjà une question, j'y vais tout de suite. Que fait l'ONU? Quel est le rôle de l'ONU de cette question? Vous en avez parlé brièvement, mais...
L'ONU, ce sont les États. Donc, l'ONU, sans la volonté politique des États, elle est zéro, elle est rien. Et nous, notre peuple, a mis la question de toute notre vie, toute notre future, toute notre histoire dans les mains des Nations Unies. Et qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu la déception la plus grande de notre vie. C'est 26 ans de processus de paix qu'ils ont commencé dans l'ONU. Maintenant, au Sahara occidental, il y a une mission des Nations Unies qui s'appelle MINURSO, mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Il y a plus de 256 civils militaires. Il y a 6 Suisses. Et cette mission reçoit un budget annuel de 56 millions de dollars. Et toutes les réfugiés sahraouis, pendant une année, 165 000 réfugiés reçoivent un budget de 30 millions de dollars. Sans compter le pillage des ressources sahraouies qui dépasse les 200 millions de dollars par année. Qui dépasse, c'est des billions de dollars. Donc, comme ça, vous voyez que nous sommes menés, pas pour les Nations Unies, pas, ce sont les multinationales qui gèrent notre vie, malheureusement. La question du Sahara, c'est net, c'est un territoire non autonome, les gens doivent se prononcer, ça c'est clair pour tout le monde, mais comme il n'y a pas une volonté politique des parties des États, donc voilà, il est bloqué là. Pourquoi? Parce que la France, c'est elle qui bloque. Pourquoi? Parce que c'est Total qui profite, c'est Majeur qui profite, c'est Exxon qui profite, c'est les grandes entreprises qui Siemens, je ne sais pas combien d'entreprises qui profitent. Maintenant, ils font les pillages. Les pillages faits légaux avec les Nations Unies. Donc, c'est très dommage de voir que les Nations Unies, c'est zéro. C'est sont payés avec votre impôt. They are paid by your taxes, but they don't do nothing. Ils font rien de tout. Rien de tout. C'est très, très, très triste quand il n'y a pas une volonté politique pour faire...
Alors, oui, brièvement, allez-y, parce qu'il y a deux mains qui se sont levées. Oui.
Las potencias administradoras informan a Naciones Unidas sobre el grado de progreso social, económico y cultural. Pero el Sahara no tiene potencia administradora. Nadie informa a Naciones Unidas de cuál es el grado de progreso. O sea, el Sahara es un territorio huérfano. Consiguientemente, la ONU tiene aún más responsabilidad. No la asume.
Quand vous voyez la liste des territoires non autonomes, chaque pays de territoire non autonome, il y a une puissance administrative. Cette puissance administrative, ils sont obligés à donner des rapports annuels aux Nations Unies sur ce qui se passe sur ce territoire-là. Au Sahara occidental, c'est un territoire orphelin. Pourquoi? Parce que l'Espagne, elle a dit depuis 75, on ne veut savoir rien. Le Maroc n'est pas reconnu. Donc, c'est un État qui se trouve dans le limbo. Quand vous mettez sur Google territoire non autonome, vous allez trouver le Sahara occidental, c'est les premières, pas de puissance administrative. Donc, il n'y a personne qui informe sur ce qui passe dans le Sahara occidental. Et le plus pire de tout ça, c'est que la mission des Nations Unies pour le référendum Sahara occidental, c'est la mission qui se trouve sur le Sahara occidental, c'est une des seules missions qui n'a pas le mandat de la protection des droits de l'homme. Donc, même si les gens sont tabassés, ça ne rentre pas dans notre mandat. Vous savez pourquoi? C'est la France qui a bloqué plusieurs fois les tentatives de plusieurs pays de mettre ce mandat en place. Oui. Ce sont des pays qui ont essayé de mettre en place, comme il y a un limbo, on peut dire orphelin, voilà, au moins la mission peut informer sur la situation des droits de l'homme. Et c'est la France, les pays de l'égalité, la justice, je ne sais pas quoi, qui a bloqué ça.
La parole est à vous.
Yes, of course.
Oh, my question would have been, why is there no, no, why is there no, the, why is there no,
in English?
Thing in onto the Missouri.
Yeah, Minnesota.
You said it's because of the French.
Yeah.
Is there another way to gain that right of human rights to the Missouri? Mm-hmm. This, if, like, me, because French is always going to be in the Security Council, so they always will be there to veto decision.
Yeah.
Is there a way to, like, go around that veto from French, or is there no...
There is no way. Unfortunately, the veto, it's a problem not only for us, it's also a problem for you. There are five members who has been, who has agreed to make our life, also yours, to tell us what to do, what's good, what's bad. And these five, they are, from my point of view, caducated. Because 15 years ago, it has been a war. All the things has changed 15 years ago. So why we should accept that this P5? But this is the order, the new order of the world, that has make these people has this right of veto, and they decide where is the territory that's going, that we are going to attack the next, where we are going to sell the weapons. Western Sahara, for us, not a problem. They can wait another years. But this is the power of the civil society, of the people, to be aware how dangerous this thing of the P5 can be for our life. So this is really a big problem, not only for us, but also for you. In our case, the question of Western Sahara, it's dead. Why there is what it is in the agenda of the Security Council, because of the P5.
Yeah.
Mm. Permanent and members.
There's nothing like a normal citizen could do about it.
Nothing. If we don't change the order of the world, we cannot do nothing. I think Pascal can explain more about this.
Yes. Est-ce que quelqu'un pourrait traduire?
Désolé, oui.
Ah. Alors, oui, qui peut traduire?
Alors, en gros, il a demandé si, parce que là, pour le moment, pour le mandat, on sera au mandat de l'ONU, les droits de l'homme ne sont pas inclus, parce que c'est justement la France qui a toujours bloqué ça. Et ça, la question
you
à lui...
You can say there's no automation like it. Oui, all the automations have human rights.
Parce que toutes les autres missions...
Et aussi le Liban.
Ils ont inclus les...
Et aussi le Liban.
Et lui, du coup, il a demandé s'il y a un autre chemin pour atteindre que cette mission, elle inclut les droits d'homme, mais malheureusement, non.
Parce que les cinq membres permanents des Nations Unies, du Conseil de sécurité, ce sont eux qui gèrent notre vie. Depuis 50 ans, il y avait un accord entre ces pays d'avoir les pouvoirs de veto. Et jusqu'à maintenant, même nous, vous, tous, ils gèrent notre vie. Ils décident où ils vont l'attaquer, ils décident où ils vont faire, où ils vont vendre des armements. Et c'est triste, très triste tout ça. Je crois que c'est un peu caduqué, un peu, on peut dire, je ne sais pas comment on dit ça. Périmé.
Périmé.
Oui, allez-y, ça fait un moment que vous avez levé la main.
Je pense que vous avez répondu. Je pense que le Conseil de sécurité, c'est le seul organe qui a l'habilité à inclure une dimension droits de l'homme dans une mission des Nations Unies. J'avais une question par rapport justement au rôle des Nations Unies. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les... processus de paix ou les discussions bilatérales entre le Maroc et le Front Polisario, des discussions directes sous l'égide des Nations Unies. On appelait ça les discussions de Manasseh, je crois.
Ouais, Manasseh.
Est-ce qu'elles sont complètement bloquées dans l'impasse ou est-ce qu'il y a encore des discussions, des tentatives en,
oui,
en
les Nations Unies n'ont pas élevé les mains de conflit. Donc, il y a quelques mois, ils ont nommé par la première fois les présidents de l'Allemagne, M. Kohler, ex-président de l'Allemagne. C'est la première fois qu'un président est nommé envoyé spécial de conflit des Sahara occidental. Parce qu'avant, c'était toujours soit un ministre des Affaires étrangères, soit un ambassadeur. Mais cette fois, pour la première fois depuis que Gutiérrez est arrivé, M. Gutiérrez, c'est quelqu'un qui connaît très bien les conflits, qui a été avec nous dans les campements, qui a vu de très proche la souffrance du peuple sahraoui. Et c'est lui qui a nommé à M. Kohler. Donc, M. Kohler, c'est un président. Il vient d'avoir la décision dans les mains. Et on espère que dans les prochains jours, les négociations soient relancées. Mais le problème, c'est que notre jeunes, ils n'ont plus confiance aux Nations Unies. ils croient que la guerre, c'est la seule solution pour trouver les conflits. Et malheureusement, on a perdu une opportunité de trouver une solution pacifique à un conflit. Et malheureusement, personne n'a profité. Donc voilà. Monsieur Pascal, il appartient à Genevacol. Genevacol, c'est une organisation qui travaille avec, on peut dire, les différents mouvements de libération qui gèrent les mines. Et le Front Polisario a un accord avec Genevacol pour essayer de finir avec les mines antipersonnes. Seulement pour... si vous me permettez.
Oui, oui, oui.
Il y a une chose que madame n'a pas dit, c'est que madame a vécu beaucoup, avec beaucoup de souffrance pendant sa vie, mais elle est toujours là, en train de lutter pour son peuple. Et ça, c'est vraiment admiratif. Elle a été violée plusieurs fois avec beaucoup de tortures, beaucoup de choses. Et elle est là. Et c'est vraiment...
Et elle est merveilleuse.
Ouais.
Et puis moi, je voulais juste te dire que pendant cette session des droits de l'homme, j'ai accompagné cette belle dame pour témoigner. On a pris des rendez-vous, elle est venue et puis... elle a toujours parlé beaucoup avec. Elle s'est appliquée à toujours parler avec beaucoup de dignité de la souffrance qu'elle a pu vivre. Et ce qui m'a beaucoup plu chez elle, c'est qu'elle s'est aussi intéressée à ce qui se passait dans cette session, c'est-à-dire qu'elle est dans les panels qui portaient sur la Palestine, qui portaient la Birmanie, le Yémen, etc., la Syrie et tout. Donc là, sa souffrance, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle n'a pas transformé en agressivité, en rancœur, ouais, mais en profonde compassion par rapport à la souffrance humaine en général. Et je la trouve fantastique.
J'ai une question pour vous.
Oui.
De ce que vous venez de dire, que madame, elle a participé à d'autres panels.
Oui. Elle est en tant qu'auditrice.
Oui, 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 bien sûr. Alors, elle a
participé. Et aussi activiste.
Combien de Sahraouis en tout?
Oui, le problème des Sahraouis, c'est ça, que tout le monde pense que nous sommes petites et on n'a pas le droit de décider notre futur. C'est vrai qu'en général, les Sahraouis, on n'arrive pas à 1 million de personnes. Mais ça, ça ne veut dire pas qu'on n'a pas le droit de choisir notre futur. Notre territoire, il est listé, même si nous sommes un, on a le droit. Il y a 21 États qui ont moins que nous. Mm-hmm. Il y a 21 États. Les Vatican. Donc, seulement pour vous dire pourquoi nous sommes intéressés à déterminer notre futur, pour des raisons culturelles, pour des raisons de vie, beaucoup plus qu'autre chose. Seulement pour vous donner un exemple. Dans le Sahara, les femmes, ils ont un autre poids, pas comme vous trouvez dans les autres pays à côté. Les femmes, quand elles sont divorcées, on fait une fête. Quand tu es beaucoup plus mariée, tu es beaucoup plus au nom de l'État. Moi-même, je suis mariée 2 fois.
J'espère qu'il n'y aura pas la troisième.
Vous nous invitez pour la fête.
Exact. Je vais faire la troisième si c'est nécessaire. Et deuxièmement, dans notre société, on ne connaît pas qu'est-ce que c'est la violence contre les femmes. Ça n'existait pas. Aucun homme peut mettre les mains contre les femmes. Il est automatiquement rejeté de la société. Donc les hommes vénèrent les femmes. Et quand une femme demande le divorce, c'est fini. C'est elle qui a la parole. Et il n'y a aucune décision qui peut être prise dans la maison des Sahraouis sans le consentement des femmes. Ça, une chose. Deuxièmement, notre langue. On a une langue qui s'appelle Hassaniya. C'est un dialecte qu'on comprend tous les pays arabes, mais personne ne comprend. C'est un dialecte très, 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 très vieille qui, à 80%, c'est de la langue arabique classique. Et deuxièmement, notre façon de vivre la vie, notre façon collectivement, on a une vie très, très, très accaparative. Il n'y a personne qui les laissait à côté. On a une coopération sociale incroyable. Vous n'allez jamais trouver un Sahraoui qui est jeté ou qui demande mendicité. Ça n'existe pas chez nous. ça existe le travail collectif aussi pour les choses difficiles de la vie quotidienne. Ça existe la solidarité. Ce sont des choses qui n'existent pas avec un régime marocain. Et deuxièmement, le plus important, c'est que nous, les Sahraouis...
Je m'excuse, il y a un autre point. Dans notre éducation sahraoui, nous, les jeunes, même si nous étions assez jeunes ou moins jeunes, nous ne pouvons pas s'asseoir à côté des grands hommes comme toi, âgés comme celui-là, d'une manière pas respectueuse, pas polie. Les jeunes filles chez nous, attends, les jeunes filles chez nous ne peuvent pas prendre ses fils ou bien ses garçons, même si c'était tout petit, devant leur père ou bien leur frère. C'est une manière de respecter la société sahraoui. On est éduqué. De cette manière, nous avons vu de cette manière et nous allons vivre de cette manière.
Et vraiment,
oui,
et vraiment.
Notre éducation protège notre éducation sahraoui, notre culture.
Et le plus important, c'est que nous, cette vénération qui ont les Marocains pour les rois, de baiser les mains, pour nous les Sahraouis, ça c'est des choses vraiment banales. C'est égalitaire, les chefs, ils n'ont aucune importance. Donc, c'est une société vraiment égalitaire, juste. Avec une langue, avec une culture. Et vraiment, on veut maintenir cette culture, cette façon de vivre. Nous sommes des bédouins. Donc, pour nous, c'est très important de voir
nomades.
Nous sommes des nomades, oui.
Donc, vous n'avez pas de leader.
Comment?
Vous n'avez pas un leader.
On n'a pas de leader. On a des chefs de tribus. Des chefs de tribus.
Pourquoi vous n'avez pas de leader?
De leader quoi?
Un leader, il y a
mais il y a quand même
président.
Oui, on a un président. On a, ouais, ouais. On a créé notre.
Somos beduinos, cada familia va en busca de pastizales y lluvia. No existe una autoridad, no existe respeto, veneración a un rey, ya sea un rey normal o una autoridad religiosa. Cada cual tiene su libro de Dios, en este caso es el Corán, lo lee, lo interpreta como le da la gana, como él cree, pero a nivel familiar, a lo sumo a nivel de grupo de familias. Pero es un sistema bastante anárquico, en la medida que existe un margen de libertad
bastante fuerte.
Okay. J'aurais aussi quelque chose à dire. Alors, ma question est la suivante, si j'ai bien compris, parce que est-ce que ce que vous cherchez, c'est avoir le droit à l'autodétermination dans le sens d'un État-nation ou bien dans le sens d'une structure sociale, politique, politique indépendante? Parce
ouais.
que si j'ai bien compris, vous n'avez pas de structure militaire pour protéger ce.
Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Oui, 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 oui.
Je précise. Hein,
oui, 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 oui.
Est-ce que vous demandez, quand vous demandez l'indépendance, est-ce que c'est une indépendance structurelle en tant que culture, en tant que nation, en tant que peuple, ou est-ce que vous demandez une indépendance comme un État, comme un peuple?
Les deux à la fois.
On a demandé, on a déjà créé notre État. Notre État, c'est la République arabe sahraoui démocratique. C'est un membre fondateur de l'Union africaine. Malheureusement, il n'y a aucun pays européen qui ne reconnaît.
Pour l'instant, la Suède,
elle n'est
pas vraiment...
La Suède, ils ont essayé, mais le Maroc a bloqué les Volvo et les IKEA, et voilà, tout stop. Donc, nous, on a créé déjà notre État. Notre but, c'est d'avoir notre État indépendant, libre, avec notre culture, avec notre façon de vivre, de régir la vie république, pas royaliste. Nous avons un parlement en exil. Nous avons un gouvernement en exil. Nous sommes des campements de réfugiés les plus organisés du monde. C'est pour cela que nous, on n'attirons pas l'attention de la communauté internationale parce que nous ne sommes pas des pauvres qui se bagarrent pour la nourriture. Nous sommes très organisés. Et ce sont les femmes qui mènent toute la résistance dans l'exil, dans les campements de réfugiés. C'est incroyable. Je vous invite à tous à aller, à partager, à voir cette expérience incroyable. C'est le seul endroit des campements de réfugiés où les femmes, ce sont eux qui partagent la nourriture. Parce que dans tous les campements de réfugiés, ce sont les hommes qui font ça. Et là, dans les campements de réfugiés, ce sont les femmes. Autre chose, c'est que même si tu ne viens pas à prendre ton ration alimentaire, il va rester là, tu vas la trouver sans problème. Donc, nous sommes très organisés et nous, on n'attire pas l'attention des journalistes pour écrire sur nous. C'est pour cela qu'il y a maintenant un problème grave dans les campements, c'est le manque de la financiation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fatigue primairement des donantes, des donateurs. Les pays qui donnent, la Suisse entre eux, c'est les pays suisses donnent 3 millions chaque 2 ans. Donc il y a une fatigue vraiment parce que, bien sûr, je peux aider dans une situation d'émergence 1, 2, 3, 10 ans, mais pas 40 ans. Donc c'est une situation très, très, très précaire. Mais voilà, nous, on ne peut pas être dans les médias parce qu'on ne donne pas l'image des, voilà, des crises qui existent en Niger, en Mauritanie, que les gens sont en train de mourir de la famine. Pourquoi ? Pour notre solidarité, pour notre façon d'être, pour notre partage. Même s'il y a un petit, mais c'est par tous. Si nous sommes mal, nous sommes tous mal. Et c'est notre façon de vivre qu'on veut dans un État république sahraoui démocratique. Vous avez compris ?
Et ils ont une armée.
On a une armée.
Non, mais que je me fasse comprendre.
On n'a jamais fait de terrorisme avec l'armée.
Leur droit à l'autodétermination, même leur droit au référendum, il n'y a pas de souci. Soit clair. La dernière, ma question, ce n'était pas ça, parce que j'ai entendu dire qu'il y a une structure sociale des tribus qui est assez anarchiste, qui a un modèle anarchiste. Quand je dis anarchiste, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Attention, hein. Je parle de l'écologie sociale, c'est aussi une organisation, c'est aussi une culture très profonde. Est-ce que le but, c'est justement de préserver cette culture, le but essentiel, est-ce que c'est de préserver ça, ou est-ce que le but essentiel, c'est de créer un État national ?
Créer un État ? Bien sûr, mais tout ensemble, tout ensemble.
Tout le monde en même temps, s'il vous plaît, allez-y. Donc.
Mais tout simplement, exemple, répondre, personne ne va se battre pendant 40 ans pour protéger une telle culture.
Mais oui.
Le militant saharaui a commencé par combattre la colonisation espagnole. Et alors, dans des mauvaises conditions, il y avait l'invasion marocaine. Et depuis jusqu'à maintenant, tout le monde milite pour... avoir l'indépendance et vivre comme tous les peuples, depuis les Américains, les Suisses, les Allemands, les Algériens, les Tunisiens et depuis vous-même. Et alors, cherchons la vie en dignité par un État indépendant avec toutes ses ressources, avec toutes ses cultures, avec toutes ses traditions, tous ses moyens de vie et de défendre aussi.
Okay. Moi j'aurais une question, tu me permets, on va commenter, puis je te rends la parole. Est-ce que le peuple sahraoui a essayé de créer des alliances ? Alors, moi, je ne connais pas bien la région, je dis ça maladroitement, ouais. Avec, je pense, aux Berbères de les environs, les Touaregs, je ne sais pas quelle autre minorité il y a, ou des mouvements sociaux au Maroc pour essayer de créer des alliances, pour avancer ensemble, pour trouver des solutions.
Il y a un petit problème, c'est que la démocratie du Maroc, ce n'est pas la démocratie de la Suisse. Donc, tous les partis politiques et les personnes marocaines qui ont essayé de donner une voix au peuple sahraoui, ils ont payé dans leur propre peu cet appui. Il y a des gens qui ont été disparus, il y a des gens qui ont été incarcérés pendant 20 ans, seulement pour dire que le peuple sahraoui a le droit de l'autodétermination. Aujourd'hui, au Maroc, il y a deux organisations qui nous soutiennent, c'est l'Association marocaine des droits de l'homme, qui parle officiellement sur le droit à l'autodétermination, mais ils ne sont pas très actives.
Il y a un autre parti qui s'appelle l'Image démocrate.
La Voix démocratique. C'est un parti politique marocain. La Voix démocratique, c'est le parti communiste, on peut dire. C'est un parti qui a payé très cher. C'est de dire publiquement qu'il appuie l'autodétermination des peuples sahraouis. Mais ils continuent à être là. Oui, ils sont totalement détruits à cause de ça, on peut dire. Donc, on ne peut pas attendre rien, ni des rifiens, ni des partis politiques marocains. Ils sont des partis politiques qui sont encadrés dans un système autoritaire. Tu dois être avec le système, sinon tu ne peux pas vivre.
Tu seras viré.
Des palais, ce sont des palais. Ce sont des baisseurs des mains.
Juridiques comme parti social ou bien.
Ce sont des partis totalement. Les rois, il est le roi de tout. Le roi de l'économie, le roi de la justice. Oui, le roi de la justice.
Il ne sera pas toujours le roi.
Oui, il est toujours le roi, malheureusement.
Oui,
il
toujours,
a...
mais ça peut changer aussi.
On espère.
Voilà. Il est 20, presque 8h30. Moi, ce que je propose, mais, c'est qu'on continue encore quelques minutes, donc ceux qui, mais qu'on s'arrête d'ici une dizaine de minutes, parce que quand même, après, on peut continuer à parler informellement, mais toute rencontre a un début, une fin.
Oui.
Mais là, c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas pris la parole, ou pour d'autres, si vous avez des commentaires, des réactions et autres, allez-y, c'est le dernier, c'est le moment.
Oui, comment vous,
oui,
comment
allez-y.
Vous pensez intervenir justement pour qu'on connaisse votre cause?
Oui, j'aimerais, je suis ici avec les signoles et avec autres, je suis dans un autre endroit, en train de demander aux Suisses et aux Suisses de nous aider,
française,
surtout française.
Macron, si
c'est très triste. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. Et donc, c'est de courir la voie, c'est d'essayer d'écrire des articles, de toucher les politiciens, votre parlementaire, essayer de faire une visite au territoire, essayer de faire un soutien, on peut dire, officiel. Donc, on attend de, vraiment... je suis très petite, nous sommes une équipe très, très, très petite, mais nous sommes prêts aussi à aller... Si vous nous invitez aux écoles, aux centres, aux universités, à faire des conférences pour expliquer beaucoup plus sur le conflit, avec des présentations, avec des sujets, nous sommes à votre disposition pour qu'il y ait beaucoup plus de monde qui connaît sur la situation.
On ne connaît pas suffisamment votre cause.
Oui, je sais.
On ne connaît pas.
Ouais.
Et
oui.
Et c'est... disons ça, ça m'émeut.
Oui, oui.
De savoir tout ça.
Oui, oui, oui. Ça, oui.
Ça vous émeut.
Oui.
Merci.
Vraiment.
Yes.
David, last question.
In English, it's okay.
Well, I think it's a big one because I want you to ask where the start of Sahar nationalism is. Because you said you have an own language, but as for my understanding, before the Spanish moved to the Western Sahara, there were different tribes, but and they were connected by your language.
Yes.
But when did it start? Where did it start? And your whole culture with like. Things I learned today about women, like the rights of women or the position of women, are new to me.
Yeah.
Where did that start?
Oh,
it's.
I can assure you.
D'abord la traduction, s'il vous plaît. Excuse-moi.
Alors il a demandé quand le nationalisme du Sahara-Occidental a commencé. Parce que ce que lui a dit que avant que les Espagnols soient arrivés, il y avait plusieurs groupes des tribus.
Très beau.
Et que quand ce nationalisme, quand il a vraiment commencé.
Oui. Just before I give our English speaker, she's there. I want to tell you that Sahara woman has never made a feminist revolution. It was all inherited from our grandmothers.
No, it's not because we don't need it, because we are. It's our culture, women always ruled at home, always ruled in the society. So we never had that issue of gender inequality or anything like that. About the Western Sahara
nationalism,
we came from all the Arab world when Yemen, most of the Arabs that moved to North Africa came, our nationalism began when Yemenis and Arabs that moved to North Africa brought Islam with them and brought, we were there and we got that mix, the mix of as you said, Bedouin people and Arabs, and that's when we got, and the Berber. It's a mix. It's a whole mix, but that nationalism, that idea of nationalism in other nations, we had it always. We were moving from one place to another before Spain got there, before even colonialism started in Africa. We had our own way of life until they came and they destroyed anything. They took the natural resources, and plus they sold our land to another nation that we didn't expect it. But when Spain was there, since Spain got there, since the beginning of occupation, our nationalism started then. We didn't want Spain at all.
Yeah.
Like, even though we got really well with them. a lot of families got like married to Spaniards. We had children with Spaniards. That didn't mean anything. We love you, we care about you, but this is our land, we want it for us, and we do not agree that you continue the occupation. The occupation lasted a long time, but our national movements of freedom of that occupation always been there. And that's why Arabic, we say our Hassaniya, we understand all kinds of Arabic, but nobody can understand us. It's like a wall protecting our own identity. This that we wear is not because we are like super Muslim or we can't wear. I'm wearing pants under it. Yeah. I play football outside. I don't care. This is my
identity.
My sign of identity. This is me saying, you may not recognize where I'm from, but this piece of cloth shows that I'm from Western Sahara. And no matter what your government says that we are part of this or we are not a country, this represents us wherever we go. Because wherever you go, you won't see.
Juste, si tu peux traduire un petit peu brièvement, ou je le fais à ta place si tu veux, très brièvement, mais si tu veux essayer, voilà.
Seulement pour, elle a dit que le nationalisme sahraoui a commencé depuis très 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 longtemps. C'est pas quelque chose qu'on a hérité, qu'on a fait la révolution pour avoir, on n'a rien fait. Donc c'est quelque chose qui s'est passé de génération en génération. Et seulement pour appuyer un peu ce qu'elle a dit, que nous les femmes sahraouis, on utilise ça, on utilise ces vêtements, pas parce que nous sommes obligés à le faire, mais c'est une façon aussi d'exprimer de où nous on vient, de notre identité. C'est notre identité, c'est notre façon de dire nous sommes des Sahara occidental, nous ne sommes pas marocains. Ça ne nous empêche pas de faire n'importe quoi, de faire le sport. Elle est en train de jouer les soccer avec les hommes, donc c'est pas un problème pour nous. C'est pas un problème aussi dans notre vie quotidienne. Il n'y a pas une séparation entre hommes et femmes, et dans les écoles il n'y a pas une séparation entre les filles et les garçons, c'est tout mélangé. Donc seulement pour vous dire, pour continuer, là je finis,
ce sera le mot de la fin.
Exact. Parce qu'il me dit, c'est fini.
Bah après, on peut continuer formellement autour de cette table.
Le peuple sahraoui lutte pour son droit à l'autodétermination. C'est incroyable la unité qu'il y a autour de cette demande. Il n'y a pas plusieurs partis politiques. Il y a seulement un mouvement de libération. On a une armée. On n'a jamais utilisé la violence pour attirer l'attention. On peut le faire. On a les bombes. On a les armes. On a les hommes, on a les jeunes qui peuvent le faire, mais on n'a jamais l'utilisé. Et malheureusement, la communauté internationale a fermé les yeux et nous a jetés à la poubelle. Donc voilà, c'est très triste.
Merci beaucoup, Omema, donc représentante du Front Polisario pour la Suisse à l'ONU à Genève. Merci à tous les représentants du Sahara occidental qui sont venus ce soir. Merci encore pour le repas et tout. Et merci à tout le monde d'avoir participé.
Retrouve les podcasts des émissions sur Libradio, www.libradio.org.